Chapitre 10 de l'Atlantique au Pacifique. La diversion qui sauvait les trois Européens réhabilitait en même temps Agostin, l'Indien Terraba. Le rusé soldat ne s'était pas enfui en abandonnant ses amis. Il était allé chercher du secours dehors, sentant bien que si l'on était resté au rancho, livré à soi-même, l'issue finale de la lutte n'eût pas été douteuse. Telle est la haine que la férocité des Guatusas inspire aux autres tribus indiennes que la parole d'Agostin trouva vite de l'écho. Quelques Viseitas et Tervis, Quiripos et Bancos se joignirent à lui. Mais si les Guatusas sont haïs, ils sont redoutés aussi. Et les braves gens qui suivaient le Terraba étaient de mœur trop douce pour être bien dangereux lorsqu'un hasard leur donna un chef vigoureux. Peut-être se souvient-on de l'Indien Ramon qui a accompagné la Varede jusqu'aux confins de la Colombie. Depuis, retiré avec ceux de sa tribu, sur les pentes du Quiriquí, il pratique, comme eux, la pêche des tortues sur la côte de la mer Caraïbe. Pacifique demeure et issu de la même famille, les Indiens ne s'occupent guère des lignes de démarcation géographique établies par les descendants des conquérants espagnols. Pour eux, c'est toujours l'ancienne terre Tulé, la mère patrie, dont la rive est baignée par un océan où Dieu n'a pas tracé de frontières. En sorte que les pêcheurs du Quiriquí et du Talamanca vivent ensemble en fort bon terme dans les parages de l'île de Drago, encore qu'officiellement, ils n'appartiennent pas au même état, les uns étant colombiens, les autres costariciens. Donc, Ramon et les siens étaient pour un temps mêlés avec leurs placides voisins lorsqu'Agostin vint chercher des hommes résolus pour sauver la Barredra. Comme tout le monde, Ramon avait entendu parler de l'aventure politique du général de la liberté des peuples, mais il ignorait que le libérateur fut son ami du Panama. Après quelques mots du Terraba Agostin, il n'eut plus de doute. Énergique et courageux, habitué au commandement pendant les travaux du percement de l'isthme, il eut au fait de prendre une décision. D'instinct, les autres le reconnurent pour chef, et c'est ainsi qu'après 2 jours de marche, la troupe de Ramon mit en déroute les Guarusos de Rosé et put sauver la Varede, Merliton et Missorette. Si sanguinaires que soient les Guatusas, ils s'enfuirent au plus tôt en cette occasion, car ne se battant ici que pour la somme qu'avait reçue leur cacique, ils n'y mettaient pas tant d'ardeur. Après tout, quelques-uns des leurs avaient été tués, d'autres blessés. Ils avaient bien gagné leur argent et tirèrent leur révérence à Don José. Celui-ci, pris de peur à son tour, se dirigea rapidement vers Puerto Viejo, qui fut autrefois florissant et est aujourd'hui, pour ainsi dire, abandonné. Là, il s'embarqua sur un caboteur de la côte et revint vivement à Colonne pour rendre compte à Bouvreuil. Le bailleur de fonds de l'affaire de l'insuccès de son entreprise dans le Talamanca. Cependant, Ramon et Agostin avaient pénétré dans le rancho si vaillamment défendu. Un lamentable spectacle les attendait. Une plaie béante au côté droit de la poitrine, Armand est étendu baigné dans son sang qui coule abondamment. Il est pâle, le visage est exsangue. Il ne donne plus signe de vie. Près de lui, Missorette, sans connaissance, semble être blessée aussi tant le sang de son défenseur a rejailli sur elle. Tandis que Merliton, qui n'a été que légèrement atteint, reconnaît Ramon, Augustin s'aperçoit que la jeune fille n'est qu'évanouie. Le médecin de la tribu est là, il lui fait respirer un vigoureux révulsif. Elle ouvre les yeux à la fin et regarde affolée autour d'elle ces Indiens qui s'empressent. Le souvenir des Guatusas lui revient. Dans une vision troublée, elle a vu l'un de ces hommes terribles se heurter à son ami, puis plus rien qu'un nuage. Son premier mot est pour son défenseur. « Monsieur Armand » demande-t-elle. Son père lui désigne le corps étendu près d'elle, dont la main soulève doucement la tête.
« Et vous, mon père, pardonnez-moi, vous êtes blessé ?»«
Oh, moi, ce n'est rien, ma fille. Mais lui, notre brave ami, hélas. »
« Mon Dieu !» s'écria-t-elle en se levant et se rapprochant. « Est-ce grave, dites ? Ah, Ramon, je vous reconnais. Eh bien, dites, je vous en prie, je tremble. »
À ces paroles émues, Ramon ne répond que par un regard silencieux et éloquent, montrant l'Indien savant qui examine la blessure d'Armand. Après un moment, celui-ci dit ces seuls mots. « Dangereux, surtout si le macheté était empoisonné. » Alors, Miss Aurette poussa un cri qui alla droit à l'âme de son père et de Ramon, tellement il contenait de douleur et d'émotion. Si la Varenne avait pu l'entendre, ce cri, il lui eût révélé le secret de tendresse renfermé dans le cœur de la jeune fille. L'Indien, un médecin, en fut touché lui-même. Il prit dans sa sacoche une herbe desséchée, la réduisit en une poudre qu'il fit dissoudre dans l'eau et en lava les lèvres de la plaie. Anxieusement penché sur elle, on voyait son visage passer par des expressions diverses, l'angoisse, l'attente, enfin la tranquillité.
Assure-toi, jeune fille, et toi aussi, Ramon, il n'y avait pas de poison. Sur l'arme du Guatusso. Un double soupir de soulagement et de joie. Mais, reprit-il, le coup n'en est pas moins profond et met en péril l'existence de notre ami.
Tout ce sang qui a coulé, c'est sa vie qui s'en va, sans doute.
Non, mais c'est même heureux qu'il en soit tant épanché au dehors. Il serait déjà mort étouffé sans cette circonstance. L'eau du torrent est là, je vais d'abord laver cette blessure à grande eau.
Les Indiens placèrent le corps comme ils l'indiquaient, c'est-à-dire l'épaule droite dans le sens du courant, de telle sorte que, par sa chute naturelle, la claire et fraîche eau de source se renouvela constamment. Puis le guérisseur prépara un liquide avec des jus d'herbe, médicaments précieux, astringents et antiseptiques, que la nature a donné au peuple primitif. Le pauvre journaliste n'avait toujours pas repris connaissance. Burlington lui fit passer de force entre les dents une bonne dose de tafia. Ce cordial put à peine rendre au cœur quelques faibles battements. Armand était très grièvement blessé, et Aurette répétait à mi-voix
« Oh !» C'est pour moi, encore une fois, mais c'est pour moi, toujours.
On ne pouvait cependant pas rester en ce lieu perdu. Il fallait songer à transporter la Varenne quelque part où des soins complets puissent lui être donnés. Ramon et Augustine, Merliton et Aurette se consultèrent. Le pansement de l'Indien suffisait d'abord. On avait d'ailleurs de quoi le renouveler pendant quelques jours. Mais on devait sans retard gagner la ville la plus proche, hors du territoire costaricien. C'était Colón, sur l'Atlantique. Là seulement on trouverait les soins éclairés et la tranquillité nécessaire. Seulement il fallait un moyen de transport qui ne donna pas de secousse aux blessés, sous peine de perdre tout l'effet des plantes médicinales. Si la plaie ne se refermait pas, si elle se rouvrait, c'était la mort. D'autre part, la fièvre et le délire allaient arriver bientôt, quand le malade recouvrerait ses sens. À tout prix, il fallait se hâter. Agostini vit organiser une sorte de cacolet, brancard fabriqué avec des branchages et un pagne d'étoffe solide,
qui fut adjoint au harnachement de la mule Manania. Le blessé y fut doucement posé, puis, avec son escorte d'amis, il fut descendu vers la côte, enlongeant le Rio Tervis. Ce fut l'affaire de quelques heures seulement pour être sur le rivage de la mer, aussi désert au surplus que le reste de la contrée. La pauvre petite Aurette ne quittait pas un seul instant son cher malade, et lorsqu'on l'étendit à bord d'un champan, chaland plat amarré à la barque de Ramon qui le remorquait, ce fut elle qui de ses genoux fit un coussin pour soulever la tête d'Armand qu'elle inondait de ses larmes. Merliton ne protesta même pas au nom des convenances. C'eût été bien inutile puisque la marraine était presque un cadavre sans connaissance, ne respirant que très faiblement. Le dernier souffle de vie pouvait s'envoler à chaque instant. Les Indiens serraient de près la côte afin d'éviter les coups de vagues. En approchant des Bocas del Toro, on trouve dans la baie d'Admirante une mer très douce. En somme, la traversée qui dura 6 jours fut exempte d'accidents. La Varède n'ouvrit les yeux que le 3e jour. Seulement, ainsi que l'avait prévu le médecin indien, il n'avait pas conscience de son être. Il vivait, c'était tout. Mais le délire commençait à le prendre, et c'est sans qu'il le sût, sans qu'il s'en rendît compte, qu'il fut transporté dans une chambre du rez-de-chaussée à l'Isthmus Hotel, où déjà Merleton était descendu aux premières fois 2 mois auparavant. Ainsi, tant de fatigue, tant de courage dépensé, murmurait Aurette, n'auront servi à rien. En se dévouant pour moi, M. Armand a perdu de longues semaines sans avancer d'un pas. L'Anglais n'avait pas hésité une minute à se charger de tout. Docteur, chirurgien, hôtel, rien ne manquait au malade, pas même le renouvellement de sa garde-robe. « Je le ferai comme gentleman, disait-il, et par humanité même pour un étranger que j'aurais trouvé dans cette situation, à plus forte raison pour notre cher compagnon. » Mais Red voulait mieux encore dans sa petite tête, et un beau matin, elle s'en ouvrit à son père. « Cette blessure met non seulement en danger l'existence de M. Lavarède, mais aussi son avenir, si nous avons le bonheur de le guérir. » « Que veux-tu dire ? Qu'il perd nécessairement ses chances de gagner les 4 millions du cousin Richard, puisqu'il en a pour 2 semaines avant d'être remis sur pied, et puisque le revoici à Cologne comme à son arrivée d'Europe, ayant perdu 2 mois dans l'isthme américain. Ma fille, ce sont les aléas de l'entreprise, un peu folle de notre ami. Mais son sang sacrifié pour me préserver, mais sa vie généreusement donnée pour la mienne. Sont cela, mon père, des aléas, comme vous dites, dont il soit digne que nous ne tenions pas compte? Je ne me connais pas plus que toi, ma chère enfant, des qualités de courage et de dévouement de M. Lavarède. Seulement, que puis-je faire de plus que ce que j'ai fait? Ne lui prodiguons-nous pas tous les soins dont nous entrerions l'un des nôtres? Cela ne suffit pas. Nous avons encore d'autres devoirs à remplir envers lui. Tu sais que je suis un homme d'honneur et un père affectueux. Si tu veux que je les remplisse, au moins dis-moi quels sont ces devoirs que ton chaleureux entraînement te suggère et que je ne vois pas bien nettement avec ma seule raison. Eh bien, les voici. Non seulement nous ne devons pas l'entraver dans sa tâche, mais nous devons encore l'aider à l'accomplir, car c'est pour nous, c'est pour moi qu'il est arrêté. Il faut que, pour moi, par nous, il avance, même inconsciemment, vers le résultat qu'il veut atteindre. Ce qui veut dire ceci, cher père. Son but, en passant par la route de terre, était d'atteindre San Francisco.
La route de terre est fermée, reste la route de mer. J'ai pris mes renseignements. Dans 2 jours, un steamer américain, l'Alaska, part de Panama pour San Francisco, et nous avons la stricte obligation, au moins par reconnaissance, d'y faire embarquer mon sauveur. La traversée dure 13 jours, 14 au plus. À bord, nous continuerons de le soigner, nous achèverons sa guérison. Le chirurgien, notre compatriote, vous l'a dit ici même. Les blessures à l'arme blanche sont suivies d'une convalescence rapide quand les organes essentiels ne sont pas atteints. Tel est le cas de M. Armand. Il ne se rend pas encore compte de sa situation. Profitons-en pour exécuter mon projet. Je vous en serai, mon père, profondément reconnaissante. Ma chère enfant, tu me sembles t'échauffer plus que de raison pour une froide anglaise. Mais le sentiment qui t'inspire est trop honorable pour que je ne pardonne pas ce que je lui juge d'exagéré. C'est entendu. Nous prendrons passage tous les trois à bord de l'Alaska. Je te ferai observer que notre blessé est en ce moment dans son lit et que, pour trouver ton steamer, il faut aller le chercher de l'autre côté de l'isthme. Est-ce possible? Marlton cédait. Aurette se fit câline et tendre. Oh, certes, c'est possible. J'ai retrouvé ici M. Gérolans, français, ami de M. Lavarède, qui est employé aux travaux du canal. Et nous en avons causé ensemble avec le chirurgien. Notre blessé, j'aime à t'entendre dire notre, est transportable ainsi. Il restera dans son île. On mettra son matelas sur une plateforme de wagon de colonne à Panama. 17 ou 18 lieues de France sont vite franchies en chemin de fer. Et on le hissera à bord du bateau américain, toujours sur le matelas qu'il nous suffit de faire ajouter sur la note de l'hôtel. Dans le trajet où nous ne le quitterons pas, il ne risque qu'un peu de fièvre. Le calme du voyage qui suit dans le Pacifique nous donnera le temps et le moyen d'apaiser cet accès. Avant 3 semaines, il sera debout, ayant gagné du terrain et prêt à continuer sa route. Vous voyez que nous aurons fait une action honnête, de celle par conséquent dont on n'a jamais à se repentir. Ah, je retrouve en toi les qualités pratiques de notre nation, ma petite Aurette. Tu as tout combiné, tout prévu. Qu'il soit donc fait comme tu le désires, et que Dieu nous guide. Avec une tête comme celle d'Aurette, avec un bras comme celui de Merliton, on passait rapidement des paroles aux actes. Pendant que Gérolance et Ramon, qui venaient chaque jour aux nouvelles, procédaient à l'installation du blessé, toujours enfiévré, mais qui, de temps à autre, trouvait de placides accalmies, heureux présages de sa prochaine résurrection, Miss Aurette aperçut le perfide Bouvreuil, qui, résidant à Colonne depuis quelque temps, était tenu au courant des mésaventures de celui que mentalement il appelait son gendre, avec de doucereuses et féroces inflexions. « Eh bien, mademoiselle, que devient donc votre excellent ami? Je n'ose pas aller moi-même prendre de ses nouvelles, mais j'en ai de seconde main, et j'ai appris votre dévouement. Oh, je cherche simplement à m'acquitter envers M. Lavarède, qui m'a sauvé d'embûches auxquelles vous n'êtes peut-être pas étranger. Oh, miss, pouvez-vous avoir une pareille idée? Je suis ici depuis près d'un mois, depuis que le président, ajouta-t-il railleur, m'a chassé de ses états. Mais je suis heureux de voir que vos efforts ont été couronnés de succès. Lavarède va mieux puisqu'il a quitté l'hôtel. » Aurette comprit qu'il fallait dépister le Bouvreuil. D'un ton le plus ingénu, elle répondit, mêlant assez de vérité pour faire passer son mensonge. « Oh, il ne va pas mieux, au contraire. L'air de ce pays marécageux lui est très défavorable, et par ordre des médecins, nous le transportons dans l'intérieur du pays, dans un village élevé de la cordillère où l'atmosphère pure sera meilleure pour sa santé. » Ce disant, elle prit congé, courut au train et laissa Bouvreuil un peu interloqué. Quelques minutes après, celui-ci était rejoint par un personnage qui s'était jusque-là caché de l'anglaise, par Don José, dont elle n'avait même pas soupçonné la présence si près d'elle. Tout d'abord, nos deux maîtres coquins se félicitèrent du succès relatif de leur machination. Le plus marri était l'aventurier.
« Si je n'ai pas pu, dit-il, m'en parler de la petite au million, ce qui m'eût fait une belle part dans la combinaison, vous n'avez pas à vous plaindre, vous êtes mieux servi. Le coup de machette de mon Guadoussomme met en panne pour longtemps votre coureur de grand chemin, et cela vaut bien les 1000 piastres qu'il vous en coûte. »
Oh, je ne dis pas le contraire, mais malgré moi, je me défie de cette jeune Anglaise. J'ai peur qu'elle m'emmène mon voyageur, je ne sais où. Si elle allait lui faire le tour du monde, même blessé. Et jusqu'où voulez-vous qu'elle aille avec un homme à moitié mort qui voyage comme un colis? Oh, c'est que le gaillard est solide, et après tout, je désire qu'il en réchappe, pour qu'il s'avoue vaincu à genoux devant Pénélope. C'est une idée fixe maintenant. Après tous les tours qu'il m'a joués, je veux qu'il épouse ma fille. »
Cette vengeance matrimoniale fit sourire l'Espagnol. Il parut réfléchir.
Mais rien ne nous est plus facile que de monter dans le premier train en partance et de savoir où ils se sont arrêtés. Que diable, un voyageur couché sur un matelas, cela se remarque. »
Il n'y avait pas de train de voyageurs avant quelques heures. Mais en route, aux stations proches de la montagne, ils eurent beau s'informer, personne n'avait vu descendre le blessé dont il donnait le signalement. Vers la Culebra, ils virent Gerlolan Serramonte qui revenait de Panama, et ils les interrogèrent.
« Ennemi de notre ami, dit tout bas l'Indien au Français, laisse-moi faire. »
Et il leur indiqua une fausse piste. Le convoi s'était soi-disant arrêté dans le pays fleuri qui domine le versant du Pacifique, mais il ignorait le nom du pueblo vers lequel on avait dirigé le malade. Cela suffit pour leur faire perdre une journée en inutile recherche. Il n'en fallait pas davantage. Quand le 18 juillet survint le lendemain de leur départ de Colonne, ils arrivèrent à Panama, ce fut tout juste pour voir déraper l'Alaska et apercevoir sur le pont la silhouette de la blonde Miss. Impossible de rattraper le steamer, et il n'y a de départ régulier que 3 fois par mois. Ce fut, chez Bouvreuil et José, un débordement de jurons et de blasphèmes à scandaliser un parpaillot. Un juif qui passait sur le quai de la ville vieille, les juifs ont depuis quelques années accaparé tout le commerce du pays, les entendit et, flairant une aubaine, puisqu'une passion humaine était en jeu, il s'enquit des motifs de cette colère.
Ben, c'était, clamait José, une affaire magnifique, ratée parce que lui et son ami venaient de manquer le départ du bateau. À tout prix, il faudrait être à San Francisco en même temps que l'Alaska.
En même temps, ce n'est pas possible, mais à 1 ou 2 jours près, je vous en fournirai le moyen, si vous avez de l'argent.
Pour un condor de Colombie, soit 50 francs en or, l'Israélite apporta le précieux renseignement que la lecture attentive des indicateurs maritimes mexicains et américains leur eût donné gratis. Il suffisait de retourner au plus vite à Colomb par le Railway Speak
et de s'y embarquer pour la Jamaïque. Cette île est reliée par un service régulier avec la Havane, qui est en rapport constant et quotidien avec la Veracruz. Là, rien de plus simple que de prendre le si curieux Camino de Hierro Nacional Mexicano, qui conduit à Mexico, et traverse en 12 heures les trois zones torrides, tempérées et froides, en montrant aux voyageurs les végétations tropicales d'en bas, reliées aux sapins neigeux des sommets, par un rappel des forêts d'Europe dans les forêts moyennes. À Mexico, le Laredo Ruta leur indiquerait, par le ferrocarril, le chemin le plus direct, El Paso del Norte, pour retrouver les grands trains américains qui parcourent les États-Unis de l'Est à l'Ouest et reprendre un des embranchements du South Pacific jusqu'à San Francisco. Tout cela exige au minimum 15 jours, et encore faut-il avoir la chance que les départs des steamboats concordent afin de ne pas perdre de temps en route. S'étant muni de billets de banque et d'or à Cologne, où il changea un fort chèque français, Bouvreuil commença cette chasse fantastique, accompagné de son inséparable Don José. Mais la première ardeur passée, le Rastaquer songea que ce n'était pas lui qui faisait la meilleure affaire en tout cela, et il s'y prit de façon à égaliser les chances à son profit. Bouvreuil avait réalisé une 20 000 francs environ. En traversant le golfe du Mexique, José le soulagea des 3/4 de la somme et perdit son complice en débarquant à la Veracruz. Le propriétaire, après un inutile accès de fureur et une plainte déposée au consulat, dut continuer seul son voyage, en songeant tristement à ce Lavarède fantôme qu'il n'atteignait que pour le reperdre chaque fois. Ne serait-il pas plus simple et moins fatigant, disait-il, qu'il épousa Pénélope? Durant le temps que cet artiste en papier timbré arpentait les mers, les îles et les continents de ces régions américaines, l'Alaska naviguait doucement, l'océan Pacifique ayant bien mérité son nom, et emportait nos amis. L'air iodé et vivifiant, les soins tendres et assidus faisaient merveille, et la Varède reprenait ses forces de jour en jour. Dès que sa raison fut revenue, il demanda comment il se trouvait là, à bord d'un navire américain faisant voile vers Frisco, comme ils disent là-bas. Miss Red dut tout avouer, et comme il protestait, « Permettez, interrompit Marlton, je ne souffrirai pas que nous soyons vous obligés. Vous nous avez sauvés, vous nous avez nourris. À notre tour, nous en faisons autant. Comme cela, nous ne nous devrons rien, ni les uns ni les autres. » C'était précis et net. Mais Armand, à ce moment, échangea avec Orette un regard expressif qui voulait dire « Il se trompe, je vous devrai toujours au moins de la reconnaissance, ne fût-ce que pour la façon si douce dont vous m'avez soigné. » Et la petite Miss, énergique et blonde, répondit par un serrement de main qu'on aurait pu traduire ainsi « Et moi, je n'oublierai jamais que je vous dois l'honneur, la vie et aussi une sensation jusqu'alors inconnue à mon cœur. » Bientôt, la Varède se leva. Le médecin du bord le permit, l'ordonna même, en interdisant tout effort, toute fatigue. Le jour, il se promenait à l'ombre, appuyé sur Marlton. Le soir, Miss Orette causait ou lisait. Tous les livres et journaux du salon des passagers de première classe y passèrent.
mais une lecture les égaya plus que toutes les autres. Ce fut celle du Diario del Estado de Panama, journal qui avait paru le matin du départ. Son correspondant de San José de Costa Rica rendait compte de la tentative socialiste d'un aventurier français qui avait réussi à se faire élire, à force d'intrigues et de corruption, président de la République costaricienne. Le triomphe de cet usurpateur, concluait l'emphatique chronista, n'aura pas été de longue durée. Le ciel lui-même a manifesté son horreur pour cette illégalité. Il a suscité une catastrophe, et la vieille terre de Costa Rica a frémi sur sa base pour chasser le faux libérateur qui voulait forger nos chaînes. Les pouvoirs publics se sont réunis ensuite, et il a été décrété que cet homme, dont on ne sait même pas le véritable nom, ce criminel, car on ne dissimule son état civil que lorsqu'on est coupable, serait désormais chassé de l'état costaricien avec défense de porter le nom de la Vareda. Cela me rappelle, fit Armand avec un rire bien sincère, un drame de Bouchardi que j'ai vu représenté dans mon enfance et où un infortuné comme moi est à jamais chassé de Florence avec défense de porter le nom de Pietro. Allons, ce sera du moins un souvenir pittoresque de mon voyage. Je pourrais dire « Eh, moi aussi, j'ai été président d'une république !» Enfin, le 1er août, à 4 heures du soir, l'Alaska franchit la porte d'or, évolua au milieu des bâtiments de toute nationalité rangés dans le port de San Francisco et vint jeter l'ancre à une encablure du North Pier. Un quart d'heure plus tard, la chaloupe du bord déposait sur le quai la Vareda et ses compagnons.
Chapitre 11. Frisco. San Francisco, Frisco pour les Américains économes de temps et de parole, est le port le plus important de l'Ouest Amérique et sa rade merveilleuse a été célébrée par maints voyageurs. De toutes les cités américaines, c'est celle qui ressemble moins à une ville d'Amérique. La foule ici est plus bigarrée, moins uniforme. Les plaisirs y sont plus éclatants, moins dissimulés. Les gens sont plus en dehors, moins hypocrites. L'aspect extérieur est plus gai, moins austère. C'est évidemment le séjour le mieux fait pour plaire à un Européen qui finirait par mourir d'ennui dans certaines rigides et pudibondes cités de la Nouvelle-Angleterre, par exemple. Sur le quai de débarquement, encombré de tonneaux de caisses de ballots, s'agitait une cohue compacte et bruyante. Commerçants, matelots, coulis, chinois, porteurs irlandais se croisaient en tous sens, affairés à ce point qu'ils n'accordaient point un regard aux nouveaux débarqués. Ceux-ci s'étaient arrêtés, un peu étourdis d'abord, de passer brusquement du calme de la pleine mer au mouvement d'une grande ville. Armand songeait avec une nuance de tristesse à ces quelques jours de traversée pendant lesquels Miss Aurett lui avait prodigué les douces causeries et les délicates attentions. On s'habitue vite à se laisser vivre, surtout auprès d'une jolie fille. Aussi le jeune homme voyait presque avec regret arriver l'heure où il devait recommencer la lutte. « Où allons-nous ? » demanda Miss Aurett. La question fit tressaillir Armand, qui, se tournant vers Sir Merlitton, lui dit « Connaissez-vous la ville ? Parle-moi du monde ! Alors, permettez-moi de vous donner un conseil. Prenez cette large rue plantée d'arbres qui s'ouvre en face de nous. C'est Kearney Street. À 500 mètres d'ici, vous verrez à côté de la Bourse du Commerce le China Pacific Hotel. Je vous le recommande. » « Ah, ça !» interrompit l'anglais ébahi. « Vous êtes déjà venu ici ?» La Vareda sourit. « Pas précisément, mais j'ai lu tant de choses. » Puis, changeant de ton,
Ah, nous voici à terre, je ne souffre presque plus de ma blessure. Il faut que je songe à gagner ma vie et à continuer mon voyage.
Comme cela, tout de suite ? Dit Merliton, à qui sa fille venait d'adresser un regard expressif.
À accepter plus longtemps votre hospitalité serait indiscret.
Et tranquillement, il ajouta. Voyez là-bas cet homme entouré d'un tas de pauvres diables de toute nation. Il embauche des déchargeurs, il m'engagera. C'est le vivre assuré pour 2 jours avec le temps de réfléchir.
Il tendait la main à l'anglais.
Very curious, murmura celui-ci. Chef d'État là-bas, portefeuille ici. Very curious.
Mamie Sorette intervint.
Mon père, vous oubliez ce qu'a dit le médecin du bord. Au moindre effort violent, sa blessure peut se rouvrir. Il serait inhumain et déloyal de laisser faire M. Lavarède.
Le gentleman se frappa le front.
Oh, c'est juste. Écoutez, mon cher convalescent, votre état réclame encore des soins pendant 1 huitaine. Accompagnez-nous à l'hôtel que vous avez indiqué.
Comment, à l'hôtel ?
Oui, c'est compris dans les soins que je vous le dois.
Et le beefsteak aussi ?
Oh oui, cela est le prix de ma fille. Je rembourse, voilà tout. Les bons comptes font les bons amis.
Et les bons adversaires, ajouta Armand en souriant.
Oh, je ne pense pas, conclut Aurette, que M. Lavarette prétende imposer à mon père l'humiliation de rester son débiteur.
Le journaliste n'avait qu'à s'incliner. Il entraîna ses compagnons de voyage et s'engagea avec eux dans Kearney Street. Cette rue, la plus belle de San Francisco, est bordée de monuments. L'ancien et nouveau City Hall, la douane, la poste, l'hôtel des monnaies, la bourse des marchands, la bibliothèque commerciale, tous édifices utiles. 15 églises alternent avec les théâtres, Baldwin, Californian, etc., les grandes maisons de banque, les hôtels somptueux, élevés de 10 étages aux balcons chargés de plantes tropicales.
« Magnifique !» déclara Merliton.
« Surtout, répliqua Armand, si l'on songe que cette immense cité a 45 ans d'existence. »«
Seulement ?» fit Aurette.
« Oh, pas davantage, mademoiselle. En 1847, il n'y avait au bord de la mer qu'un bourg d'un millier d'habitants. Yerba Buena, fondée en 1776 par des missionnaires franciscains du Mexique. »
Et aujourd'hui,
San Francisco compte 300 000 âmes. La découverte des placeurs s'y a amené la foule des aventuriers. Cette fièvre s'est calmée. Maintenant, l'industrie et l'agriculture remplacent le claim.
Mais, remarqua le Français, nous sommes arrivés.
Devant eux se dressait le China Pacific Hotel. Ils pénétrèrent dans le bureau où le master director Tower était majestueusement assis. Devant lui se tenait un garçon d'une 20aine d'années qui lui parlait avec animation. À l'arrivée des voyageurs, ce dernier s'éloigna de quelques pas. M. Tower s'inclina légèrement et s'adressant à l'anglais «
Vous voulez des chambres, gentlemen, je devine. »
Le « je devine » I guess » est une locution usuelle en Amérique comme le « I say » en Angleterre, le « savez-vous » en Belgique et le « dis donc » en France. Merliton répondit à la question
« En effet, 3 chambres, nous comptons rester 8 jours ici. »«
All right, gentlemen, vos bagages sont en gare, I guess. »«
Nous n'avons pas de bagages. »«
All right. » Alors nous disons 3 personnes, $15 par jour, 8 journées, $120 au comptant. Sir Merliton tira son portefeuille et remit à M. Tower des banknotes pour la somme annoncée. L'inconnu qui, un instant auparavant, conversait avec le directeur de l'hôtel s'était rapproché.
Il avait pris un air satisfait en voyant l'anglais solder son compte. Tandis que M. Tower sonnait les domestiques pour conduire ses clients à leur chambre, le jeune homme s'inclina devant l'anglais. « Vous êtes étranger, sœur ? » demanda-t-il.
« Pas étranger, » répliqua le gentleman Red. « Anglais !»
L'inclinu s'inclina de rechef. Ce dont Merleton lui sut gré. La référence flattait son amour-propre national.
« Donc vous avez l'honneur d'être anglais. Eh bien, permettez à un simple chasseur de pépites de vous donner un bon conseil.
Je vous permets. Défiez-vous des voleurs.
Beware of pickpockets. »
Et du doigt, montrant la poche où son interlocuteur avait serré son portefeuille, « Vous avez là de quoi les tenter, » reprit le jeune homme.
« Oh, pour les prendre là, il faudrait être adroit, tout simplement. N'oubliez pas, sœur, que nos pickpockets se recrutent aussi dans la Grande-Bretagne. »
Sur cette réflexion dont l'anglais ne parut pas goûter beaucoup le chauvinisme particulier, l'inconnu sortit tranquillement. Au même instant, un des domestiques de l'hôtel parut. Sur l'ordre de M. Tower, qu'il pliera les voyageurs de le suivre. En 3 secondes, l'ascenseur les déposa sur le palier du premier étage.
« C'est ici, » dit leur guide, « les chambres 13, 15 et 17, ces deux dernières communiquant à l'intérieur. »«
À moi le 13, » murmura la varenne. Et comme Aurette parut contrariée,
« Il m'a déjà porté bonheur en Costa Rica, » ajouta-t-il gaiement. La jeune fille sourit.
La varenne, laissant ses compagnons s'installer, s'enferma dans sa chambre banale mais confortable et procéda à sa toilette. Puis, rafraîchie, convaincue par un regard à la glace que les épreuves précédentes n'avaient pas trop altéré sa bonne mine, le Parisien ouvrit sa croisée et contempla l'immense perspective des rues Montgomery et Kearney. Les maisons luxueuses qui bordent ces voies sont construites en sapin rouge, mais revêtues d'un enduit spécial, elles donnent l'illusion de palais de marbre. Des voitures de toute espèce, des tramways, des omnibus, se croisaient incessamment sur la chaussée, tandis que les piétons affairés se coudoyaient sur les trottoirs, et de la rue montait un bourdonnement fait de cris, de conversations, d'éroulements qui réjouissaient délicieusement Armand. Ce bruit lui rappelait son Paris. Pourtant, il n'aurait pas été du boulevard si en n'importe quel endroit du monde il n'avait éprouvé le besoin de se déclarer à lui-même que ça n'avait pas le même cachet. Des comparaisons, il passa au souvenir. Il revit la rue de Châteaudun où, pour la première fois, il s'était rencontré avec la charmante jeune fille qui l'accompagnait autour du monde. Tout à coup, il fut tiré de sa rêverie. Dans la chambre voisine, occupée par Merleton, les sonnettes électriques tintaient furieusement et des éclats de voix arrivaient jusqu'à la varenne. Il fallait une chose grave pour que l'impassible anglais en vint au cri. Très intrigué, voire un peu inquiet, Armand courut à la porte du numéro 15. Elle était ouverte. Au milieu de la chambre, Merleton, la figure écarlate, brandissait une liasse de papier. Aurette semblait chercher à le calmer. À l'instant où le journaliste arrivait, un garçon d'hôtel se précipita dans la chambre. « Master Tower !» s'écria l'anglais dès qu'il l'aperçut. « Qu'il vienne de suite, tout de suite !» Le garçon, effaré, s'éloigna. « Hello !» poursuivit le gentleman en faisant signe aux Français d'entrer. « Je suis furieux. Mes chèques, mes banquenotes, tout du papier blanc. »«
Pardon, vous dites ?»« Mon père a été volé, » intervint Aurette. « À la place du portefeuille, il n'a plus trouvé qu'une liasse de papier blanc. »«
Yes, oui, parfaitement volé !» appuya Merleton avec une colère croissante. « Et avec le portefeuille, ma montre, mon rasoir, tout !»
M. Tower entra. « On dit que vous me demandez... »«
Monsieur,
déclara l'anglais en essayant de reprendre son calme.
J'ai été volé. J'avais mon portefeuille en arrivant ici, vous avez pu le constater.
Bah, en effet, vous en avez extrait la somme nécessaire au paiement de la huitaine.
Bien, depuis ce moment, j'ai parlé à trois personnes. Vous, ce monsieur avec lequel vous causiez, et le garçon. L'un des trois est mon voleur.
Le plus tranquillement du monde, l'hôtelier lui répondit, très justement déduit.
Pas de compliments. Sur qui se portent vos soupçons?
Monsieur Tower sourit. Ma conviction est faite, gentleman. Vous avez été soulagé de votre numéraire par la personne qui se trouvait dans mon bureau. Les voyageurs se regardèrent stupéfaits.
Comment, balbutia Orlet, exprimant la pensée de ses compagnons, vous accusez cette personne? Vous sembliez pourtant être avec elle dans les meilleurs termes.
Le gros Tower leva l'index en l'air.
Cela mérite explication. Vous êtes européenne, mademoiselle, et vous ignorez qu'à San Francisco, la police est impuissante. À 10 kilomètres de la ville commence la prairie où se réfugient tous les individus ayant commis un crime.
Mais ce n'est pas une raison pour leur offrir sa maison, remarqua la varenne, ni même pour leur serrer la main.
Attendez un peu. Les robbers de la cité se sont syndiqués et ont établi une société d'assurance contre eux-mêmes.
Une assurance, s'écria Merriton.
Oui, gentlemen, l'idée était pratique. Nous autres Américains, nous comprenons les idées pratiques et la société fonctionne à la satisfaction générale. Ainsi, moyennant une prime annuelle de $200, je suis assuré qu'aucun vol ne sera commis à mon préjudice.
Cela se voit, ricana l'anglais. Ah, distinguons, je vous prie. Je n'assure pas les voyageurs, mais seulement ma propriété. Et je gagne au marché, car nos robbers sont si adroits qu'ils enlèveraient la maison et moi dedans sans que je m'en aperçoive. Ce jeune homme est le caissier des voleurs et il venait toucher la prime.
Et sur cette péroraison concluante, M. Tower se retira sans que personne songeât à le retenir. Les voyageurs se regardaient en silence. La varenne, frappée surtout par le côté comique de la situation, retrouva le premier la parole.
Oh, aimable pays, murmura-t-il entre haut et bas, où les voleurs se syndiquent et où les policemen sont bafoués.
Oh, fit Sir Merliton d'un air lugubre, je regrette beaucoup d'être venu ici. Nulle part on ne tolérerait une pareille situation.
Pardonnez-moi, elle existe dans toutes les parties du monde.
Les Touaregs du Sahara ne forment-ils pas un véritable syndicat?
La première tribu que rencontre une caravane prélève un droit de passage, après quoi les marchands, leurs bêtes et leurs colis n'ont plus rien à craindre. Quelques cavaliers les escortent ou les précèdent afin d'apprendre aux autres pillards du désert que le droit de passage a été acquitté. Dans l'Asie intérieure, de nombreuses peuplades kurdes procèdent de même à la satisfaction générale. Enfin, en pleine Europe, l'association des bandits italiens, la mafia, n'est-elle pas prospère?
Henriette écoutait en souriant.
Fort bien, dit-elle, enfin, mon père a donc été dépouillé en Amérique aussi bien qu'on peut l'être en Afrique, en Asie ou en Europe, mais... cela n'empêche pas qu'il ne soit pour l'instant totalement démuni d'argent.
Il ne me reste pas un farthing, appuya le gentleman avec une piteuse grimace.
Je possède 5 sous, reprit Armand. C'était déjà un peu juste pour faire le tour du monde tout seul, mais à 3 personnes, ce sera sûrement insuffisant. Et voyez l'ennui. Comme vous ne pouvez continuer à me suivre, je suis immobilisé ici, je perds du temps.
L'anglais le regarda.
Vous
vous avez raison. Je vais aller au bureau de télégraphe le plus proche et câbler, comme on dit ici, à mon banquier. Il s'assit, rédigea un télégramme et le relut à voix haute, comme pour demander l'approbation de ses auditeurs. Harris, Gardner and Sons, Grace Church Street, London, England, folio 237, envoyé par retour mandat télégraphique 2000 livres, China and Pacific Hotel Kearney, San Francisco. Edward Burlington. Le télégraphe office établi dans Sacramento Street est voisin. Tous trois y arrivèrent bientôt, mais là, une nouvelle déception les attendait. C'était la journée de Guy, décidément. L'employé qui reçoit la dépêche réclame pour la transmission $1 par mot, soit $26. En vain, Sir Merlington lui explique son aventure, donne son adresse, affirme que la maison Harris, Goldner & Sons s'empressera de faire honneur à sa signature. Le commis ne veut rien entendre. Contre $26, je transmets. L'administration ne fait pas de crédit. Et sur cette réponse, il ferme son guichet au nez des voyageurs déconfits. La nuit tombait quand l'Anglais, très affecté, regagna l'hôtel. Orette était presque aussi abattu que son père, et l'anxiété peinte sur son visage étouffait toute velléité joyeuse chez le Parisien. Le dîner fut silencieux, et la dernière bouchée avalée, Sir Merlington et la jeune fille se retirèrent dans leur chambre. La Varenne s'ennuya une demi-heure au parloir, parmi des inconnus de toute nationalité, et à son tour rentra chez lui. Le lendemain, vers 9h, Miss Red buvait mélancoliquement une tasse de thé dans laquelle elle trempait des rôtis. Puis elle rejoignait son père, qui, pas plus qu'elle, n'avait dormi. Tous deux étaient pâles et une pensée fastidieuse leur revenait toujours. « Nous sommes à 4000 lieues de notre pays, sans un penny en poche. » Et avec cela, continua à haute voix la jeune fille, « si ce jeune homme trouve le moyen de continuer son voyage, nous n'avons pas le droit de le retenir. » « Oh, mais si cet employé du télégraphe avait consenti à me faire crédit !»« Oui, mais il n'a pas voulu, c'était son droit. »« C'est bien ce qui m'embarrasse, je ne sais que faire. »« Aller chez notre consul ?»« Mais mon voleur a emporté mes papiers en même temps que mes banknotes. »« Il faudra une enquête, 15 jours peut-être, et pourtant je ne vois pas d'autre moyen. » À ce moment, un coup discret fut frappé à la porte et l'un des stewards parut. « Monsieur Armand Lavarenne, dit-il, demande si, malgré l'heure matinale, monsieur peut le recevoir. Il aurait à l'entretenir d'une affaire importante. » Sir Burlington regarda sa fille. Les yeux de Miss Orette exprimaient l'espoir. Le seul nom du français l'avait rasséréné. « Qu'il vienne, fit-il. » Un instant après, le jeune homme faisait son entrée. Il était souriant. Tout dans sa personne trahissait le contentement. La jeune Anglaise pensa que si M. Armand paraissait satisfait, c'est qu'il avait dû trouver un moyen de mettre fin à leurs ennuis. « Oh, je vais droit au fait !» déclara la Varenne après un rapide check-in à ses amis. « Adversaire courtois, nous faisons le tour du monde ensemble, or... » Pendant que j'étais blessé, incapable de poursuivre ma route, vous m'avez soigné, choyé, dorloté et transporté. Je suis donc votre serviteur. Ah, dites-vous, interrompit l'Anglais, je restituais. Vous avez été blessé en protégeant ma fille. Armand leva les bras au ciel d'un air désolé. Ah, vous sortez de la question. J'ai le droit de dépenser un peu de sang en chemin. Le testament du cousin Richard ne m'impose que l'économie de l'argent. Or, accepter votre hospitalité, c'est presque faillir aux conventions.
Aussi, je viens vous prier de me permettre de vous trouver les 26 dollars dont vous avez besoin pour câbler à Londres. »
Marlton se leva tout ému.
« Comment vous voulez, vous pouvez ?»
Orlette ne bougea pas. Dès l'arrivée de son compagnon de voyage, n'avait-elle pas deviné qu'il venait pour cela? Mais ses grands yeux se fixèrent sur le jeune homme avec une expression très douce. Cependant, la Varenne répliquait « Oh, je puis vous procurer la somme. C'est mon intérêt, d'ailleurs. Je ne veux pas m'arrêter longtemps dans cette ville, et mon départ est subordonné au vôtre.
Mais comment arriverez-vous ?»«
J'arriverai à tenir ce que je vous promets le plus simplement du monde. L'alchimie moderne me permettra de transformer en bons dollars les 5 sous que la générosité de mon cousin m'a accordés et que mes ennemis n'ont pas songé à prendre sur la cheminée quand ils m'ont volé. Mes vêtements chez la Señora Concha, ils ne savaient pas ce que l'on peut faire avec 25 centimes, mais moi, je le sais. Aussi, les ai-je précieusement conservés.
Mais quelle alchimie!
Ah, sœur, respectez mon secret. Je m'occuperai de cette affaire après le déjeuner. Je vous autorise à suivre mes démarches à distance, car peut-être choquerai-je quelque peu vos préjugés. Voilà, maintenant que nous sommes d'accord, faites trêve à vos ennuis jusqu'à 3 heures et parlons d'autre chose. Tenez, parlons de la ville où nous sommes.
Jusqu'à 3 heures?
Parfaitement. Pour vous occuper, permettez-moi de vous faire visiter Frisco.
Que faire sans argent, moins que l'on ne vaque? Ils virent ainsi les villas d'architecture variée, construites sur les hauteurs, Montgomery, le parc du Nord, Cliff House, l'auberge de la falaise, d'où l'on découvre un des plus admirables panoramas du monde. Ici, la cité, dominée par ses 3 gares d'Auckland, du South et du North Pacifique, qui la relient à New York, Mexico et au territoire du Dominion. Là, une rade encombrée, le fort du Presidio, la mer, que les voiles piquent de taches blanches et les steams de panaches gris. De ce lointain émerge le Seal Rock, avec ses troupeaux de phoques protégés par le gouvernement fédéral. La Varenne expliquait tout. « Voyez, disait-il, ces bandes de verdure qui coupent le fouillis des maisons. Elles indiquent l'emplacement des cimetières de Longmount, des francs-maçons et des Old Fellows. C'est là que les amoureux vont parler de l'avenir auprès des pierres qui scellent le passé, comme ils le font en Orient. » Et comme Orette faisait un mouvement. « Que voulez-vous, miss? Tout est étrange ici. Considérez cet îlot de construction les unes contre les autres. C'est la ville chinoise. »
« Voyons la ville chinoise, mon cher Cicerone. » Entre les squares Lafayette et Alta Plaza, s'empressa de continuer Armand, sont groupés 30 pâtés de maisons édifiées à la façon chinoise et séparées par des ruelles étroites encombrées d'immondices. Celles des maisons qui ont été achetées, toutes construites, logent maintenant 10 fois plus de monde qu'auparavant. C'est là le siège des 6 grandes compagnies d'immigration. Ah, ces compagnies! En France, on se plaint des bureaux de placement. Que pourraient dire les sujets du Fils du Ciel? Ces sociétés ont, sur toute la côte de l'Empire du Milieu, des agents qui racolent les émigrants, employés ici comme coulis, domestiques, artisans, blanchisseurs, etc. On les embarque sous la seule condition qu'en cas de décès, leur corps sera rapatrié. Notez, ajouta le journaliste, que les compagnies ont leurs lois, leurs tribunaux devant qui se jugent sans appel tous les conflits entre célestes. Il était temps de rentrer à l'hôtel. Après le repas, volontairement prolongé, une courte sieste dans le parloir conduisit les voyageurs à l'heure indiquée par le Parisien.
« 3 heures !» s'écrièrent Miss Orette et son père.
Armand s'inclina.
et 5 minutes plus tard, tous trois arpentaient le trottoir de Kearney Street. Le Français marchait en avant. Il semblait inspecter le terrain. Arrivé devant la bourse des marchands, assiégé par une foule compacte de spéculateurs, il eut un geste de satisfaction. Alors, Merleton et Aurette assistèrent à un spectacle incompréhensible pour eux. Lavarède tira son mouchoir de sa poche, le déplia, le secoua, et enfin l'étala sur le trottoir avec l'air absorbé d'un homme se livrant à une opération capitale. Après quoi, il fit le tour du carré de Baptiste, murmurant des paroles inintelligibles, agitant les bras. Fouillant dans son gousset, il prit un à un les 5 sols qui composaient tout son bagage et les déposa en ligne sinueuse sur le mouchoir. Ce manège avait attiré l'attention des groupes voisins. Un passant, puis 2, puis 10, s'était arrêté. Quand le Parisien eut terminé, un cercle s'était formé. Gracieusement, il salua, et en excellent anglais, il débita le petit boniment que voici. « Originaire de ce pays libre, je fus élevé en France. C'est là que je fis la merveilleuse découverte dont je viens d'ôter ma patrie. » Durant tout le Moyen-Âge, les savants, alors dénommés alchimistes, ont cherché la pierre philosophale, la métamorphose d'un métal vil en or pur. Eh bien, ce que ces admirables travailleurs ont vainement cherché, le hasard me l'a fait découvrir. Oui, gentlemen, dans mes mains, le bronze devient argent, un cent se transforme en dollar. Tenez, voici 1 sou de France. Vous allez assister à la curieuse expérience. Mais, si je vous livre mon secret, veuillez encourager l'opérateur. Allons, la main à la poche. Profitez de l'occasion, gentlemen. Remarqua un spectateur qui venait de se glisser dans le cercle. Si la méthode était infaillible, l'inventeur n'aurait pas besoin de faire appel à la générosité publique. Lavarède regarda l'interrupteur et demeura court. C'était Bouvreuil en personne. Miss Aurette l'avait reconnu tout d'abord.
« Mon père, » dit-elle à Sir Merleton avec une nuance d'effroi, « voilà ce vilain homme. »
Mais comment se trouvait-il là? De la façon la plus aisément explicable. Arrivé le matin même par le South Pacific Railway, le père de Pénélope, à qui il restait près de 4 000 francs encore et ses lettres de crédit, s'était tenu ce langage. Le Sieur Armand est un boulevardier. C'est donc sur la promenade la plus fréquentée, sur le boulevard de l'endroit que je chance de le retrouver. Il s'était informé, comme on le voit, l'événement lui donnait raison. Un murmure approbateur avait accueilli son observation, encore que, faite en français, elle dut être traduite par quelqu'un. Mais le Parisien avait repris tout son aplomb, la supériorité que lui donnait l'usage de la langue du pays aidant. « Gentlemen, s'écria-t-il, celui qui vient de parler n'a pas l'âme d'un philanthrope, il ne comprend rien à la délicatesse. Si je vous demande votre obole, c'est pour ne pas avoir l'air de vous faire l'aumône. Il n'a pas vu cela, il ne veut pas lâcher un cent. Il est de ces gens qui prétendent recevoir sans donner. C'est peut-être même un usurier. » Et d'une voix éclatante, « C'en est un, gentlemen. Voyez les caractéristiques de la race. Le nez épaté, le regard fuyant, les lèvres minces, souvent sur des dents de chacal. Oh, l'odieuse et basse physionomie. » Les assistants riaient. Bouvreuil, qui en comprenait assez pour juger bon de quitter la place, alla se mettre en observation à quelques pas de là. « Plaisante, mon bel ami, grommelait-il, je t'ai retrouvé. Je saurais bien te faire regretter tes colibets. »
Ayant ri, les curieux payèrent. Les scènes tombaient, pluie de cuivre, qu'Armand recueillait avec soin, entraînant les hésitants. « Allons, gentlemen, encore 10 cents. Plus que 5, 3, 2. » Deux pièces de monnaie sonnèrent sur le sol. Le jeune homme alors remit son mouchoir, ses sous et sa recette dans sa poche, puis gravement. « L'expérience est terminée, vous le voyez. Avec un sou, je viens de me procurer 1 dollar. » L'exercice auquel vous avez assisté est ce que les camelots parisiens appellent la postiche. » Un rire argentin accueillit cette péroraison. C'était Miss Aurette, à qui lui eût dit 3 mois auparavant qu'elle admirait un journaliste français en pareille occurrence. Elle eût répondu par un démenti catégorique. Le Kant britannique ne permettait pas une semblable aberration. Et pourtant, la chose impossible, invraisemblable, se réalisait sans qu'au fond d'elle-même elle sentît une révolte. Il est vrai qu'elle était éloignée de la correcte Angleterre et que la Varède charlatanisait pour elle. La gaieté d'une jolie personne est communicative, les assistants se dispersèrent avec des mines épanouies. « Good humbug !» disait-il. Seul un homme à la barbe rousse inculte, aux vêtements tachés de glèbe, un gratteur de placers, comme on désigne là-bas les tarvenus, qui glanent les rares parcelles d'or oubliées dans les gisements abandonnés, arma son revolver et d'une voix rauque « Par à deux, mon négociant !» Je t'ai jeté 1 cent, je me contenterai d'un demi-dollar de bénéfice. Pour l'alchimiste, s'il vous plaît. » Il tenait Armand en joue. L'Anglaise vit le mouvement et poussa un cri. Sir Marleton fit un pas pour s'interposer, mais le Parisien l'arrêta du geste. Mettant lui aussi le revolver à la main, il fit face à son adversaire. Celui-ci pressa sur la détente. Une balle siffla aux oreilles du journaliste et alla trouer le chapeau d'un passant, un véritable Américain, celui-là, qui se retourna en maugréant. « Oh, sûrement, ces gens qui s'expliquent dans la rue !» Et il s'en alla en brossant le poil de son chapeau. Armand tira à son tour et avec tant de bonheur qu'il brisa la crosse de l'arme de son agresseur dont la main fut traversée du même coup. « Est-ce assez ?» demanda-t-il. « Yes !» maugréa le blessé. « All right !» Le saluant légèrement de la tête, la Varède se disposait à s'éloigner. Il avait hâte de rejoindre ses amis, qu'il voyait à 10 pas de lui, comme cloué au sol, le gentleman très rouge, la jeune fille subitement pâlie. Mais un nouvel incident le retarda encore. Un Chinois, cassette unique bleue, à sa calotte surmontée d'un globule d'ambre on reconnaissait pour un lettré de 2e classe, lui barra le passage. Ce céleste s'était arrêté un des premiers auprès du jeune homme. Il avait assisté à toute la scène avec un air de satisfaction ardente. « Vous avez du sang-froid, monsieur !» dit-il en anglais nasillé. Le Français le regarda en souriant. « Est-ce une 2e querelle ? Oh non, une question seulement. Vous êtes courageux et vous avez besoin d'argent. Ah, alors, c'est une affaire que vous allez me proposer. Juste. Allez, faites vite, des amis m'attendent. Il s'agit d'une besogne dangereuse mais bien rétribuée. » Armand hésita, il n'avait aucune raison pour se lancer dans une entreprise hasardeuse, car maintenant, avec le dollar qu'il possédait, il était sûr de se procurer la somme promise à Sir Marleton. Mais un secret instinct l'intéressait à la proposition de ce Chinois, et puis il ne risque rien à voir venir. « Je reste libre de refuser si les conditions ne me conviennent pas.
Oui. Que faut-il faire? Venez ce soir à 10h à l'angle sud du square Alta Plaza, à la limite de la ville chinoise. C'est cela, oui, on vous conduira à l'endroit où vous apprendrez ce que l'on attend de vous. À 10h, je serai au rendez-vous. Et en aparté, il murmura, « Matin, en voilà de la couleur locale !» Sur ce, le lettré à bouton d'ambre tira de son côté et la barrette du sien. « Ah ! » s'écria Mulleton, « je n'aurais pas permis que vous cherchiez de l'argent pour moi si j'avais su que vous deviez encore risquer vos jours. »« Ne parlons plus de cela !» interrompit le jeune homme. « Très pittoresque, n'est-ce pas, ce duel dans la rue ? Cela me fera une chronique amusante au retour. Pour le moment, allons à l'office du Californian Times. » Au bureau du journal, l'anglais, stylé par la Varenne, obtint pour $1 l'insertion de l'annonce suivante. « Moyen sûr de gagner aux courses, écrire VR 271 au bureau du journal, joindre 10 cents. » Avec cette annonce, dit le jeune homme à ses compagnons en sortant, nous aurons demain ce qu'il nous faut et au-delà. Oh, c'est bien possible, remarqua l'anglais. La bêtise humaine est incommensurable. Mais quel est le moyen sûr que vous promettez? La marraine haussa les épaules et en riant. Ne jouez que sur les gagnants. Oh, déclara vivement Miss Sorette. « Cela n'est pas honnête. » La remarque parut blesser le français. « Vous vous trompez, mademoiselle. Nous avons besoin de quelques dollars. Je les emprunte comme je puis, avec la certitude de ne faire tort à personne. Demain, nous irons au Californian. Nous ouvrirons les lettres à nous adresser jusqu'à concurrence de $26. » Sir Mulleton câblera à Londres, puis la réponse de votre banquier étant arrivée, nous remettrons 10 cents dans chacune des missives décachetées que nous rapporterons au journal. Monsieur votre père voudra bien alors faire passer une nouvelle annonce, dont voici le sens. Le moyen sûr de gagner aux courses n'existe pas. Nos correspondants n'ont qu'à se présenter au Californian Times, où après justification, les sommes versées leur seront remboursées. Coût $3 ou $4, ce sera mon comptage. » La jeune fille avait rougi en écoutant ces explications. Elle avait honte de sa mauvaise pensée, et elle l'avoua franchement. « Voulez-vous me pardonner, monsieur la Varenne ? » dit-elle en lui tendant la main. « Oh, mais c'est une susceptibilité qui vous fait honneur, » riposta le français, qui avait retrouvé toute sa bonne humeur, « mais je vous en félicite, et je suis presque heureux de la petite mortification qu'elle m'a value. » À cette réplique, la rougeur de l'anglaise s'accentua encore. Mais les voyageurs atteignaient le China Pacific Hotel, et leurs pensées changèrent de direction à la vue de Bouvreuil qui pénétrait à leur suite dans le vestibule. Le propriétaire les avait filés, et certain de connaître enfin leur gîte, il allait prendre une chambre dans la maison afin d'être à même de surveiller son gendre, comme il s'obstinait à désigner la Varenne. Celui-ci toisa l'homme d'affaires. « Oh, c'est encore vous, monsieur Bouvreuil !»« Ce sera toujours moi. Mais vous êtes décidé à ne pas me quitter. » Et à vous ramener en Europe, ruiné et repentant, oui. Alors, vous songez quand même à me marier. À ma fille Pénélope, oui, quand vous aurez échoué dans votre folle entreprise. Parfaitement. Ah, en ce cas, monsieur Bouvreuil, préparez vos jambes. J'ai l'intention de vous faire courir. Je courrai, même de vous distancer, moins pour hériter de mon cousin que pour ne plus vous voir. Et tournant le dos à son ennemi, Armand sauta dans l'ascenseur où les Anglais avaient déjà pris place, laissant Bouvreuil de fort méchante humeur.
mais sans doute la réflexion calma le délégué des porteurs de Panama, car une heure plus tard, après avoir retenu sa chambre chez M. Tower, il se rendait au télégraphe et faisait passer à sa fille, à Sens, Yonne, cette dépêche. San Francisco, retrouvé fugitif, bon espoir.